cadre des élections législatives anticipées qui arrivent, nous avons souhaité réaliser des interviews de chacun des candidats pour la première circonscription de Corrèze. Nous avons fait comme nous avons pu, dans le temps qui nous était imparti, comme les candidats eux-mêmes. Il y a donc des différences de qualité sonore, mais nous avons essayé tout de même d'être le plus juste possible en termes de temps et de sujets. Et nous espérons néanmoins que ces interviews vous aideront à y voir plus clair. Maïté Pouget, candidate Rassemblement National. Bonjour Maïté Pouget.
Oui,
vous
bonjour.
Vous êtes candidate pour le Rassemblement National sur la première circonscription de la Corrèze.
Oui.
Alors je vous propose, avant qu'on commence vraiment à parler du local, qu'on parle un peu du national. On l'a fait avec tous les candidats parce que la situation est quand même particulière et il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Notamment dans votre parti, il y a eu le ralliement d'Éric Ciotti des Républicains et de Marion Maréchal. Quelle ligne vous portez avec ces gens-là, parce qu'il y a eu des différends avec eux aussi. Comment vous vous retrouvez dans ce que vous appelez l'union des droites?
Écoutez, si nos dirigeants ont jugé bon de faire alliance avec M. Ciotti et Marion Maréchal, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Nous avons quand même les mêmes idées et nous défendons les mêmes valeurs.
Vous considérez qu'il n'y a pas de différence avec eux
Non. Vous savez, la gauche fait sans cesse des alliances. Bon, c'est pas toujours, ça marche pas toujours bien chez eux, mais bon, je pense que chez nous, ça devrait le faire.
Parce que c'est quand même quelque chose qui était attendu par vos électeurs, justement, cette union des droites. Ça fait longtemps qu'on en parle.
Franchement, je sais pas, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas, c'est pas un sujet de préoccupation pour eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est que notre Rassemblement National passe, c'est tout.
Et justement, je voulais vous poser une question par rapport à une déclaration de Jordan Bardella qui vient de faire il n'y a pas longtemps. Il disait les étrangers qui n'ont plus d'activité professionnelle depuis 6 mois, il aimerait qu'ils soient invités à repartir dans leur pays d'origine. Alors moi j'aimerais juste vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que pour votre formation politique, les étrangers ne peuvent rien apporter d'autre qu'une plus-value par le travail à la France?
Écoutez, je sais pas, je l'ai pas entendu. J'ai pas entendu quand il a dit ça, mais bon, tout dépend. Je pense que tout dépend de la situation familiale quand même de ces gens.
Bah, il n'a pas précisé.
Voilà. Je pense que c'est-à-dire que si quelqu'un est arrivé effectivement pour trouver du travail et qu'au bout de 6 mois, il n'a plus de travail et qu'il doit rester 2 ou 3 ans chez nous sans rien faire, on n'a pas besoin.
Donc pour vous, vous considérez que le travail, l'activité professionnelle, c'est une des choses centrales pour pouvoir résider en France?
En général, tous les migrants qui sont venus en France depuis pas mal d'années, hein, parce que moi j'ai quand même un certain âge, donc j'ai vu arriver des Italiens, des Portugais, des Espagnols, ils sont tous venus pour travailler. Ils sont venus pour s'établir en France, ils sont venus pour avoir une famille, travailler et vivre correctement.
Et donc moi j'aimerais vous poser une question suite à ça. Est-ce que dans ce cas-là, pourquoi vous vous opposez à la régularisation des travailleurs sans papier?
Mais parce qu'on ne peut plus accueillir tout le monde. Le problème est là, c'est qu'on ne peut plus accueillir tout le monde puisque la plupart du temps, ces gens-là n'ont pas de travail. Ou alors,
Je vous parle des travailleurs sans papier.
Les travailleurs, c'est la même chose. Est-ce qu'ils ont un emploi définitif ou est-ce que ce ne sont que des contrats et ils vont se retrouver à un moment donné aussi où ils n'auront plus de travail?
Et donc dans ce cas-là, on les renvoie dans leur pays d'origine, c'est ça?
Je pense, oui.
D'accord. J'aimerais qu'on passe sur des sujets un peu plus locaux, on va dire. Par exemple, la pauvreté, qui est un sujet, et la précarité qui touche le Limousin et la Corrèze. Un peu pareil qu'au niveau national, il y a 15% des gens en Corrèze et dans le Limousin qui vivent sous le seuil de pauvreté, 990 euros par mois. Ça va jusqu'à 20-25% chez les moins de 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là, au niveau du Rassemblement National, si vous êtes élu?
Si on baisse déjà la TVA sur l'électricité, sur les carburants, moi 20% en moins sur mon électricité, je vous dirais que je dirais pas non. Hein. Parce que moi j'ai travaillé toute ma vie et j'ai une petite retraite. Donc, comme je disais tout à l'heure à un de vos confrères, là, depuis un certain temps, je sors plus. Avant, j'allais manger toutes les semaines avec mes collègues qui sont encore en activité. Maintenant, j'y vais une fois de temps en temps. On est obligé, tout le monde est obligé de regarder. Moi, si je veux payer mes factures à la fin du mois, j'ai intérêt à faire attention à mes dépenses. Quand je travaillais, oui, j'allais en ville, je voyais une robe qui me plaisait, je regardais et je l'achetais. Maintenant, je rentre chez moi, je fais mes comptes et je regarde si je peux l'acheter.
Et
Et
donc,
encore, bon, moi, je vais pas me plaindre, j'ai une retraite.
mais concrètement, de ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat parce que les factures sont trop élevées et prennent les gens à
Oui.
la gorge. Et comment on fait pour éviter ça? Comment on fait pour réguler les factures?
Mais c'est ce que je vous disais, si on baisse la TVA sur l'électricité déjà, les gens qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas Tulle, qui habitent les alentours, puisqu'ils ont acheté des maisons parce que c'était moins cher que dans Tulle, et maintenant ils sont obligés de prendre la voiture tous les jours pour aller travailler. Le gasoil avait baissé la semaine dernière un petit peu, et là j'ai constaté qu'il allait remonter. Donc maintenant, le plein d'essence, ça fait mal.
Mais
Et ça grève le budget.
par exemple, la TVA, c'est un impôt qui touche tout le monde. C'est peut-être l'impôt le plus inégal.
Illégal, mais oui, c'est
Mais
sûr.
une question, c'est que cette TVA, elle sert à financer notre modèle social. Comment on fait pour compenser? C'est quoi votre
Ben,
solution?
déjà, si on régule nos migrants, nous aurons beaucoup moins de frais, parce que ça nous coûte cher.
Ça représente combien?
Alors écoutez, je n'ai pas les chiffres en tête, hein. Je suis pas, voilà, mais l'immigration a un coût énorme. Comment dire, tous ces mineurs nous coûtent très très cher, aussi bien en soins, parce que moi quand je vais chez mon médecin, chez un spécialiste, j'ai une mutuelle qui me coûte 120 euros par mois. Et ben quand je suis remboursée, il me reste toujours quelque chose à charge. Tous ces gens qu'on soigne gratuitement. Donc, je trouve que les soins devraient être réservés aux Français d'abord, et puis augmenterait le budget de la sécurité sociale s'il n'y avait pas toutes ces dépenses.
Oui, mais ça représente une infime partie de notre modèle social.
Une prime partie, je ne suis pas sûre. Il y a je ne sais pas combien de millions de cartes vitales qui circulent, on ne sait pas à qui elles sont. Il y a plus de cartes vitales que de Français.
Vous le sortez d'où cette
Ah
information?
ben c'est pas d'aujourd'hui, hein, qu'on en parle.
Moi, je vous propose qu'on parle d'agriculture. Parce que au Rassemblement national, vous avez fait votre campagne européenne là-dessus aussi. Là, dernièrement, on a vu les agriculteurs qui étaient encore en mobilisation par rapport aux aides de la PAC 2023, qu'ils n'ont toujours pas
Oui,
reçues.
mais non.
Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là?
Ben écoutez, faudrait qu'on soit au pouvoir déjà pour pouvoir agir.
Mais si vous êtes élu,
Hein?
qu'est-ce que vous faites?
Je connais quelqu'un qui travaille à la Chambre d'agriculture. Ils font des dossiers, ils les envoient et ils sont bloqués. Donc, je ne vois pas pourquoi, puisque on a donné une promesse à nos agriculteurs de les aider. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne paye pas.
Et au niveau de la répartition de ces aides de la PAC, il y a un vrai débat autour de qui doit recevoir ces aides et qui les mérite, entre
C'est
guillemets.
très compliqué. C'est très compliqué et là, je ne suis pas capable de vous répondre.
Et au niveau du revenu des agriculteurs, c'est une de leurs revendications principales, assurer un revenu décent aux exploitants.
Mais ça me semble logique.
Comment on s'y prend, selon vous?
Mais déjà, il faudrait enlever toutes ces mesures drastiques qui les empêchent de travailler correctement.
Vous parlez de normes?
De normes, oui, voilà. Hein, et arrêter de faire rentrer des produits qui viennent de pays étrangers et qui n'ont justement aucune norme comme nous. Déjà, le gasoil, l'électricité, parce que bon, je pense que quelqu'un qui a une stabulation avec une cinquantaine, une soixantaine de vaches, les treilleuses automatiques, je pense que ça doit consommer quelque chose.
Et au niveau des accords de libre-échange au niveau européen, je crois que vous vous êtes opposé à ça, au Rassemblement
Bien sûr,
national.
on est opposé à ça, bien sûr. On avait tout ce qu'il fallait en France. On a perdu je ne sais pas combien de paysans. Il y en a qui se suicident constamment parce qu'ils n'y arrivent plus. Donc, je ne vois pas pourquoi. Quand je vais acheter de l'ail au supermarché, que je vois que c'est de l'ail d'Argentine, eh ben, je ne l'achète pas. J'attends d'aller au marché pour trouver de l'ail français. Parce que je pense qu'on sait cultiver de l'ail quand même chez nous.
Oui, mais c'est pas par le fait que chaque consommateur, on n'arrivera jamais au fait que chaque consommateur réfléchisse là-dessus.
Ben oui, mais si on n'importe plus, ils seront bien obligés d'acheter français. Et ça fera baisser les prix, puisque les gens travailleront.
Mais on va continuer à exporter, nous.
Ben, on n'est pas obligé de laisser rentrer tout et n'importe quoi. Voilà ce que je veux dire.
Qu'est-ce
C'est que
qu'on...
quand vous voyez qu'on a des produits qui viennent d'Ukraine, qui n'ont aucune norme, alors que nous, on les impose à nos agriculteurs, on leur interdit d'employer des produits nocifs, mais dans les autres pays, j'ai été en Inde, alors je peux vous dire que depuis que j'ai été en Inde, je ne mange plus de cornichons, parce que les cornichons sont cultivés en Inde, et quand je vois les produits qui sont utilisés là-bas, bah, je peux vous dire que si je mange des cornichons, je les achète au marché et je les fais moi-même.
Et par exemple, au niveau environnemental, moi j'aimerais vous poser des questions là-dessus. Comment on fait pour, par exemple, il y a l'agroforesterie, qui est un sujet assez important en Corrèze et dans le Limousin. On parle beaucoup des coupes rases en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait pour
Oui, mais alors
réguler
là,
ces coupes rases?
je ne suis pas assez qualifiée pour vous répondre pour l'instant.
Ah ben, c'est une question que j'ai posée à tous les candidats.
Mais oui, mais bon, ils sont peut-être plus armés que moi, parce que M. Hollande a déjà été président, M. Francis est déjà élu depuis plusieurs années, donc là, ça dépasse mes compétences pour le moment.
Et donc, vous considérez qu'il faut pas forcément, enfin, que c'est pas forcément un enjeu ou...
Si, mais comme je vous dis, j'ai reçu aucune. Enfin, j'ai un programme, oui, j'ai le programme de Marine, mais je n'ai pas de formation pour débattre de sujets aussi concernant autant les agriculteurs.
Oui, c'est quand même un sujet qui est quand même assez
Je suis d'accord
important
avec
en
vous, mais je
Corse.
ne vais pas vous raconter n'importe quoi.
D'accord. Et au niveau de la crise hydrique dans le Limousin et en France en général, et ça touche particulièrement la Corrèze quand même, on voit depuis plusieurs années des sécheresses à répétition et qu'il y a des communes, notamment sur par exemple le plateau de 1000 vaches, qui n'ont plus accès à l'eau l'été. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là?
Alors là, c'est pareil, quand je serai élue, je rencontrerai des gens qui pourront me donner des solutions. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas de baguette magique et je ne peux pas vous répondre tout de suite.
Alors moi j'aimerais vous poser une question qui n'a
Ah,
pas
oui.
forcément quelque chose à voir avec l'environnement. J'aimerais vous poser une question sur le milieu associatif, le modèle associatif qui a été mis à mal sous Emmanuel Macron avec le pacte d'engagement républicain qui est utilisé par les préfets pour censurer financièrement les associations. Nous, on est une radio associative et on fait partie d'un milieu associatif qui est très développé en Corrèze particulièrement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des interrogations sur les différents partis politiques. S'ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font à ce niveau-là? Parce qu'il y a une vraie inquiétude. On a vu beaucoup d'associations être amputées financièrement.
Oui, mais ça, c'est M. Macron, hein. Donc après, M. Macron, il cherche de l'argent partout à récupérer. Donc après, il y a des associations qui sont d'utilité publique et je ne pense pas que nous allions entamer leur budget.
Parce que par exemple, on a entendu une de vos conseillères régionales à la région Nouvelle-Aquitaine expliquer que par exemple la SMAC de Tulle, Les Lendemains qui Chantent, on devait réfléchir à si ou non on devait leur donner des subventions puisqu'ils avaient organisé par exemple une soirée queer.
Ah là, je ne sais pas. Là, j'avoue que.
Ça veut dire, ce que je vous demandais, c'est est-ce que si demain vous arrivez au pouvoir, il y aura des inquiétudes à avoir au niveau associatif? C'est une
Bah, de
question
toute
simple.
façon, déjà, je vais vous dire une chose, les gens ont le temps de s'inquiéter pour ça, parce que déjà, ça sera pas. Je ne pense pas que ce soit dans nos priorités. Je pense qu'il y a d'autres priorités qui demanderont beaucoup de travail et je pense que pour l'instant, ils n'ont pas à s'inquiéter.
Alors, expliquez-moi vos priorités.
Bah, déjà, si s'occuper de rétablir la sécurité en France,
Ça passe par quoi?
ça passe par quoi? Ben, ça passe par... il faut absolument... ça m'énerve parce que ça me sonne derrière. Il faut engager des policiers. Il faut que les juges arrêtent le laxisme.
Par rapport à qui?
Mais par rapport au... Comment dire, à tous ces gens qui cassent, qui volent, qui violent, qui encore une petite fille qui a été violée là, une petite fille qui a été battue dans une cour d'école, je me demande ce que faisaient les enseignants quand même, parce que c'était dans la cour de récréation, dans les écoles normalement les enseignants surveillent la cour.
Oui.
Voilà, donc il y a une insécurité de plus en plus grave partout, ça c'est un gros problème. Donc on a dit le pouvoir d'achat, on a dit bien sûr les déserts médicaux, mais ça c'est pareil, on n'a pas de baguette magique. Je pense que des gens travaillent depuis un moment sur le problème, mais quand on voit que M. Hollande et M. Macron n'ont pas réagi.
Au niveau de la désertification médicale?
Bien sûr, il y a longtemps qu'il fallait augmenter le taux des médecins. Et on l'avait baissé à une époque parce qu'il est vrai qu'il y avait certains médecins qui avaient du mal à se faire une clientèle, mais à un moment donné, il aurait fallu penser que, vu en plus l'augmentation de la population avec ses migrants et tout ça, il aurait fallu y penser. Quand on voit qu'il faut, nous, il faut aller à Bordeaux pour trouver un ophtalmo. Les dentistes, il paraît qu'il y en a 7 qui ferment là encore.
Et comment...
Ils s'en vont à la retraite.
Comment on s'y prend concrètement pour répondre à ce manque de médecins et de réponses médicales?
Je viens de vous dire, il aurait fallu que monsieur Macron, puisque ça fait 7 ans qu'il est là maintenant, au lieu de fermer des lits et compagnie, il aurait mieux fait de se poser la question. Parce qu'il faut 10 ans ou 12 ans pour faire un médecin maintenant.
Et donc, là où je veux en venir, c'est que si vous arrivez au pouvoir et vous avez de grandes chances d'y accéder, au vu des sondages, certes, Macron et Hollande n'ont pas forcément répondu, si on est d'accord ou pas, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour répondre à cette problématique? Parce qu'il faut voir dans le futur, on a des élections qui arrivent.
Oui, mais je viens de vous dire, comme a dit M. Bardella, on n'a pas de baguette magique, hein. Mais je pense qu'ils ont déjà travaillé sur le problème. Alors, je sais pas. J'ai pas la réponse, hein. Je suis pas dans les hautes sphères. Mais je pense qu'ils ont déjà réfléchi à essayer de trouver des solutions.
Et c'est pas dans votre programme?
Mais monsieur, vous croyez que je connais le programme par cœur?
Ben, je vous le défendais. Je veux dire,
oui, mais bon, je suis pas tout à fait au courant de tout ce qui se passe quand même au niveau des recherches des solutions du RN.
Bah, vous m'avez dit que c'était une de vos priorités, la désertification médicale.
Oui, il faut vraiment, on en parle depuis longtemps, il faut trouver des solutions, mais je n'ai pas la réponse. J'ai pas de baguette magique, je vous le dis.
Et moi, j'aimerais vous poser une dernière question, si vous le voulez bien.
Oui.
C'est sur l'identité, non pas nationale, mais l'identité régionale. Il y a une culture occitane dans le Limousin, en Corrèze, et là où vous vous présentez en tant que candidate à la députation, il y a un attachement, il y a des associations qui militent pour le renouvellement de cette culture, de cette langue. Comment on fait pour conserver le patrimoine culturel, par exemple occitan, normand, basque, dans la nation, alors qu'on voit que ces cultures, en fait, sont en train de disparaître?
Ben écoutez, je pense qu'il y a des régions qui ont remis, à apprendre à l'école.
Donc vous favoriserez l'éducation par l'occitan
à condition que ce soit volontaire pour que les enfants soient volontaires. On ne peut pas obliger, mais on peut dans l'emploi du temps, on peut trouver peut-être un petit moment bien sûr, mais je pense que les enfants sont intéressés.
Donc ça serait une école comme sur le modèle des écoles
Dans les écoles, il suffit d'avoir un professeur qui tourne dans les écoles.
Donc ce serait dans les écoles publiques, il y aurait des professeurs qui viendraient donner des cours, par exemple, de langue occitane, et pas forcément des écoles comme les écoles d'Iwan en Bretagne, où c'est une immersion totale en breton. C'est ça que
Bon,
je
mais
veux
les
dire.
Bretons, ils ont toujours voulu être indépendants, les Bretons.
Mais il y a des indépendantistes aussi occitans.
Oui, mais je veux dire, moi je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des slogans, la Bretagne indépendante. Donc non, pas, faut pas, non, 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 faut pas que les enfants qui le souhaitent puissent l'apprendre. Bon, ceux qui le souhaitent déjà, je pense, l'apprennent avec les parents, mais pourquoi pas, oui, faire quelques heures, oui.
Je vous pose cette question parce que très concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est que même si on a un développement massif, ce qui s'est passé depuis quelques années en Bretagne de l'apprentissage de la langue, il n'y a pas assez de locuteurs pour qu'elle soit transmise et qu'elle va forcément finir par disparaître. Et donc, il y a d'autres réflexions à avoir, par exemple, sur la véhiculer cette langue dans la vie courante, c'est-à-dire la faire vivre par des festivals, etc. Est-ce que vous allez soutenir ce type de projet?
Bah oui, pourquoi pas. Je m'étais pas penchée, mais oui, pourquoi pas.
Et comment on peut aller plus loin? C'est ça que.
Ben, je sais pas, mais bon, je vois que dans Limousin, il y avait, comment dire, des soirées limousines. Je pense qu'on peut faire des réunions, des soirées. Où les gens viendront costumés s'ils ont envie, parler. Mais après, c'est sûr qu'à un moment donné, déjà nous, on n'est même pas sûr de continuer à parler français longtemps, parce qu'on a de plus en plus de mots anglais. Et maintenant, si on ne parle pas anglais, on est perdu.
Oui.
Alors, parler limousin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit un plaisir, un passe-temps pour en famille, voilà, mais après. Je sais pas comment je sais pas,
Non,
je vois pas.
parce qu'après, il n'y a pas que la langue, il y a aussi toute une culture qui va avec.
Oui, tout à fait, tout à
Ça
fait,
peut être la
mais
musique, la danse,
voilà, c'est ce que
les
je vous disais,
pratiques.
les soirées limousines, là, c'est du folklore, voilà, cherchez le mot. Enfin, on peut transmettre par le folklore, mais je suis pas sûre que ça sorte beaucoup de la région et de la France, quoi.
Et alors, je voudrais vous poser une question peut-être qui va vous paraître un peu éloignée des débats, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de la tension au niveau international. Et moi, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous faites, si vous arrivez au pouvoir au Rassemblement national, par rapport à ces crises, que ce soit en Ukraine, en Palestine, Israël, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous préconisez là-dessus?
Alors là, si je savais la solution, je ne connais pas le problème à fond. Je peux pas vous répondre.
Et vous connaissez pas la ligne du parti à ce niveau-là?
Je pense que M. Bardella et Mme Le Pen l'ont déjà dit. Mais là après, moi, ce n'est pas à mon niveau, là.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si vous arrivez à l'Assemblée nationale, il y aura bien des discussions auxquelles vous
Ben
prendrez
oui,
part
mais
sur ce
voilà, mais
sujet.
comme je vous ai dit, moi je suis agent administratif, hein, je ne suis pas bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7. Je vais à l'Assemblée pour défendre la Corrèze.
Et alors, ok, et vous allez la défendre de quelle manière?
Mais
Expliquez-moi.
je veux m'investir pour la Corrèze. Après, certes, je serai en contact avec des gens qui ont des opinions et avec qui j'apprendrai à réfléchir sur ces sujets-là. Pour l'instant, je suis désolée, j'ai pas. Comme je vous dis, moi, ce qui me tracasse, c'est pour l'instant, c'est voilà, le pouvoir d'achat, ces choses-là qui sont vraiment terre à terre.
Donc c'est vraiment l'aspect économique, on va dire.
Ben oui, bien sûr, parce que j'entends les gens se plaindre constamment. Et c'est pas normal, comme je disais, c'est pas normal que des gens qui travaillent n'aient pas les moyens de se nourrir correctement, de vivre correctement.
Oui.
J'ai pas rencontré sur Tulle, mais je sais que dans des endroits, il y a des jeunes qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un appartement alors qu'ils travaillent. Ça, c'est une préoccupation.
Donc vous faites
Pour
quoi
moi,
à ce niveau-là, par exemple, à l'accès au logement?
L'accès au logement, c'est pareil. On en revient à dire toujours la même chose. Gardons les logements pour les Français.
Oui, mais en Corrèze, c'est pas forcément le problème des étrangers.
Ah ben, parce que vous croyez que sur Tulle, il n'y a pas d'étrangers? Vous croyez que sur Brive, il n'y en a pas?
Si.
Ben,
Mais moi,
oui.
j'en vois beaucoup aussi qui dorment à la rue.
Ce n'est pas toujours des étrangers qui dorment à la rue, hein.
Mais on est d'accord que ce soit un étranger ou un non-étranger, ils n'ont pas à
Ils ne doivent
dormir
pas
dans la rue.
dormir dans la rue, je suis d'accord. Mais moi, je vous parle des gens qui travaillent. Ces gens-là, ils font la mendicité.
C'est de
Faut
qui fait
pas.
la mendicité?
Ben, une partie de ces gens qui dorment dehors. Je les ai juste à côté de chez moi. Hein. Je les vois. Hein. Ils ne travaillent pas. Ils sont là toute la journée à faire la mendicité et à aller acheter de l'alcool à la petite épicerie à côté.
Et comment on fait pour les aider à se remettre au travail
Ils
alors?
veulent pas s'aider. Ils veulent pas qu'on les aide. Ils veulent pas. Il y en a, je ne dis pas tous, hein, mais la plupart, ils ne veulent pas. C'est un mode de vie qu'ils ont choisi. Quand je parle avec eux, voilà. On ne veut pas de contraintes, on ne veut pas travailler, on ne veut pas si, on, voilà. Ben oui, ben oui.
Et dans quel coin vous habitez?
Alors moi, je suis sur Brive.
Ok. D'accord.
Je suis vers la poste.
Et donc,
Et je les croise tous les jours.
donc ça veut dire que si vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous allez lutter pour que chaque Corrézien puisse avoir un logement. C'est ça?
Ben oui. Puisse se loger décemment quand il travaille, je précise bien.
Donc ça veut dire un Corrézien qui ne travaille pas n'a pas le droit à un logement?
Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit, mais la priorité va aux gens qui travaillent quand même. Moi, je savais, vous savez, je vais avoir 70 ans là. Moi, j'étais élevée dans une famille où même si je faisais la fête toute la nuit, le lendemain matin, je pouvais vous dire que j'avais intérêt à être levée pour aller au travail. Parce que je pense que mon père m'irait accompagner et ça ne serait pas bien passé, alors que mon papa n'était pas violent. Mais quand on travaille, on y va. On est malade, on va au travail. Sauf bien sûr si on est à l'article de la mort, je ne veux pas dire, mais c'est, je ne sais pas, moi, quand je travaillais, ben, si j'étais un peu enrhumée, je ne restais pas chez moi parce que je savais que mes collègues, elles allaient récupérer mon travail et qu'elles avaient déjà assez du leur. Maintenant, les gens, pour un oui ou pour un non, hein, donc il faut remettre la France au travail. Il faut remettre les gens au travail.
Alors, justement, l'accès au travail, comment on s'y prend?
Ben écoutez, je vois des restaurateurs qui ne peuvent plus ouvrir tous les jours parce qu'ils n'ont pas de personnel. Me dites pas qu'il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas des cuisiniers, qu'il n'y a pas des serveurs.
Justement, dans le milieu de la restauration, c'est énormément de personnes, de travailleurs sans papier qui font aussi
Pourquoi?
tourner ça.
Ben pourquoi? Parce que les
Ben parce
Français
que
ne
ça
veulent pas
coûte
y
moins
aller.
cher pour les employeurs aussi. Il faut le
C'est
dire.
pas surtout ça, c'est qu'ils ne trouvent pas
Bah
de travailleurs français.
parce que vous parlez de votre cas personnel, moi j'ai travaillé aussi dans la restauration et j'ai vu de mes propres yeux des employeurs dire bah oui je les prends parce que ça coûte moins cher.
Alors ils ne payent pas de charges sociales? Ils ne
Bah
les payent
ouais.
pas au SMIG?
Non, c'est ça.
Eh bien alors on n'a qu'à taper sur les doigts de ces restaurateurs. Vous voyez, les gens ne respectent plus rien. Mais voilà ce que je veux dire. C'est que la France est devenue un vrai. Il n'y a plus personne qui respecte rien. Sur la route, les gens ne respectent rien. Les gamins circulent, les adultes circulent en vélo sur les trottoirs. Vous leur dites quelque chose, c'est encore vous qui avez tort. Il faut remettre de l'ordre dans ce pays.
Et donc, moi, là où je vous amener, c'est à vous questionner sur est-ce que je veux vous demander le problème, est-ce que c'est le restaurateur qui est en emploi, quelqu'un qui n'est pas déclaré, ou alors c'est la personne qui n'est pas déclarée qui est fautive parce qu'elle va travailler justement dans la restauration ou d'autres métiers dans ce
Alors,
genre?
je vais vous répondre, je vais vous expliquer. À un moment donné, je travaillais pour Cuisine Plus ou Hyper Cuisine. J'ai fait les deux. Hein. On vendait des cuisines par téléphone. Premier contrat de 3 mois, deuxième contrat 3 mois, troisième contrat 3 mois. Normalement, au bout de 3 contrats de 3 mois, on doit être embauché. J'appelle l'inspection du travail parce que je ne me suis jamais quand même laissé trop faire. J'appelle l'inspection du travail. Vous savez ce qu'on me répond?
Dites-moi.
Eh bien, vous savez pas, si ça ne vous plaît pas, ben, vous démissionnez. Voilà. On n'a pas été, et je n'étais pas la seule parce qu'on était une douzaine de personnes à travailler ensemble. Eh bien, la seule réponse de l'inspection du travail, c'est vous ne voulez pas re-signer un quatrième contrat de 3 mois? Ben non, je lui dis, c'est pas la loi. Eh bien, dans ces cas-là, vous démissionnez. Voilà.
Donc, dans le cas que vous me dites, c'est le code du travail et l'inspection qui n'a pas fait son travail.
Mais oui, parce qu'on fait des lois, mais on ne les fait pas respecter. C'est le problème.
Ok.
On vote des lois, et puis après, on ne les fait pas respecter. Donc, je vous dis, faut tout remettre en place. Et il y a un sacré travail.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis,
au revoir.
Bonne campagne. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos entretiens avec les candidats sur le site internet de Bram FM.